Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Bethléem, Jérusalem, la basilique de la Nativité, le Saint-Sépulcre, la souffrance des Palestiniens est la cause essentielle de l'unité des chrétiens. Et puis le mur qui déchire cette Terre Sainte. Quelques mots pour résumer la deuxième journée du pèlerinage du pape François en Terre Sainte. Une journée intense marquée par l'invitation faite par le Saint-Père aux présidents israéliens et palestiniens à se retrouver au Vatican pour relancer les pourparlers de paix. Les épées doivent se transformer en charrues, a lancé le pape François, et la Terre Sainte fleurir à nouveau dans la prospérité et dans la concorde. Et avec le patriarche écuménique de Constantinople, le souverain pontife a posé un nouveau geste historique sur le chemin de l'unité des chrétiens. Pour la première fois dans l'histoire, les chefs de toutes les églises chrétiennes de Jérusalem ont prié ensemble ce dimanche soir au Saint-Sépulcre. C'était le point d'orgue du pèlerinage du pape François en Terre Sainte, l'objectif principal de son voyage, 50 ans après la rencontre entre Paul VI et Athénagoras, qui initia un rapprochement entre catholiques et orthodoxes, un tournant dans l'histoire. Les cloches ont sonné à toute volée lorsque le pape François et le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée, sont arrivés, accueillis par les supérieurs des communautés gréco-orthodoxes, franciscaines et arménienne apostolique. C'est le patriarche gréco-orthodoxe de Jérusalem qui a pris la parole en premier. Son discours d'accueil a été suivi du chant de l'Alléluia et de la proclamation de l'évangile de la résurrection, le récit selon saint Jean en grec, le récit selon saint Matthieu en latin. Dans son discours, le Saint-Père a invité les participants à ne pas rester sourds au puissant appel à l'unité qui résonne de ce lieu et à mettre de côté les hésitations héritées du passé. Il reste encore du chemin à parcourir pour aboutir au partage de la même table eucharistique, mais les divergences ne doivent pas nous effrayer et paralyser notre chemin, a-t-il dit. Le pape François a renouvelé le vœu déjà exprimé par ses prédécesseurs de maintenir un dialogue avec tous les frères en Christ pour trouver une forme d'exercice du ministère propre de l'évêque de Rome. Dans son homélie, le patriarche Bartholomée a pour sa part invité à rejeter la peur de l'autre, de la différence, du croyant d'une autre religion, d'une autre confession. Il a pointé du doigt le fanatisme religieux qui menace la paix dans de nombreuses régions du globe. Tous les chrétiens, a-t-il dit, sont appelés à suivre le chemin de l'amour, de la réconciliation, de la paix véritable et de la fidélité à la vérité dans leurs relations entre eux, quelle que soit l'église ou la confession à laquelle ils appartiennent. Auparavant, le pape François et le patriarche écuménique Bartholomée s'étaient longuement entretenu en privé et avait signé une déclaration conjointe que je vous invite à retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Les deux chefs religieux y confirment leur engagement à continuer sur le chemin de l'unité. Cette prière commune, c'est le point culminant de ce pèlerinage, ainsi que les quatre rencontres entre le pape François et le patriarche de Constantinople, 50 ans après le sommet historique entre leurs prédécesseurs Paul VI et Athénagoras en plein concile Vatican II. Relancer l'élan œcuménique entre églises chrétiennes très divisées et le dialogue interreligieux sont parmi les priorités du pontificat du pape François. Je vous propose d'écouter l'historien français Antoine Arjakovsky, co-directeur du pôle Société, Liberté et Paix du Collège des Bernardins, et directeur émérite de l'Institut d'études écuméniques de Lviv, en Ukraine.
C'est très important parce que c'est vraiment par la prière que les choses peuvent se débloquer, parce que la prière, c'est le souvenir qu'on a un seul Dieu, un seul Père, et donc que nos divisions doivent être relativisées et être mises en perspective par rapport à l'unité fondamentale des chrétiens. C'est ce qui dépasse vraiment toutes les petites divisions qui se sont accumulées et qui, à bien des égards, aujourd'hui, ont perdu leur sens. Les catholiques et les protestants l'ont montré avec un document au sujet des divisions du XVIe siècle. Aujourd'hui, tout le monde a oublié ces questions qui divisaient les chrétiens au XVIe siècle. C'est la même chose entre les catholiques et les orthodoxes qui, au départ, tout simplement, comme le disait le père Congar, ont vécu progressivement dans des mondes culturels différents. Et c'est ça qui explique que lorsque la modernité est arrivée, eh bien, il y a eu des réactions différentes. Mais aujourd'hui, avec la globalisation, on se rend compte que sur les points qui divisent le monde catholique et le monde orthodoxe, la question, par exemple, de la Trinité, est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou simplement du Père, ou bien la place de la Vierge Marie, de la Mère de Dieu, ou même la place de l'évêque de Rome dans l'Église, on voit que les théologiens de part et d'autre ont trouvé des consensus. Et j'en veux pour preuve un livre qui vient de sortir récemment au CERF, qui a été co-signé par le métropolite Emmanuel Adamakis du côté orthodoxe et par le cardinal Kurt Koch du côté catholique, qui s'appelle « L'Esprit de Jérusalem ». Eh bien, les deux hommes qui sont vraiment des experts en écuménisme disent « On a déjà beaucoup discuté, on s'est déjà bien compris, on a déjà trouvé des consensus, maintenant il faut faire le pas de l'audace ». Et le pas de la prière commune, voire même de l'Eucharistie, de la communion au même calice. Il faut de la primauté et il faut de la synodalité. Il faut à la fois un principe personnel et vertical qui rappelle le fait que Dieu tient son unité de sa personne. Et il faut un pape qui a une autorité qui ne soit pas simplement d'honneur, mais qui ait une dimension juridique. Mais en même temps, cette dimension verticale, si elle n'est pas équilibrée par une dimension horizontale d'église locale qui chemine ensemble, parfois sans savoir où elles vont, le principe personnel se perd. Donc il faut les deux. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur l'essentiel entre chrétiens, catholiques et orthodoxes.
Est-ce que cela est compris par, je dirais, toutes les tendances de l'Église orthodoxe? Et je pense, par exemple, à l'Église orthodoxe russe. Est-ce qu'elle est aussi favorable à ce qui se passe? Est-ce qu'elle voit d'un bon œil ce genre de rencontre?
Alors, c'est vrai qu'à Moscou, on est un peu plus tendu sur cette avancée écuménique que nous avons en France ou en Turquie avec le patriarche Bartholomée, parce que voilà, nous vivons des espaces-temps différents et aujourd'hui la Russie revient de loin, elle revient de vraiment trois générations de persécutions et d'affrontements. Et il est bien vrai que au sein du patriarcat de Moscou, on est plus en retrait par rapport à l'écuménisme. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des questions de susceptibilité. Qui fait le premier pas? Pourquoi ça se passe à Jérusalem et pas à Moscou, alors que Moscou est la plus grande église? On peut comprendre tout ça, mais on doit surtout le dépasser, parce que si on dépasse pas ça, on n'y arrivera jamais. Et là, le pas prophétique que font le pape François et le patriarche Bartholomée, à mon avis, c'est quelque chose à soutenir et à encourager.
Antoine Arjakovski, co-directeur du pôle Société Liberté et Paix du Collège des Bernardins à Paris, interrogé par Bernard de Cotigny. Sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, devant le président et le premier ministre israélien, le pape François a plaidé une fois encore en faveur d'une résolution juste et durable des conflits qui ont causé tant de souffrances. Le Saint-Père a souhaité qu'il n'y ait pas de place en Terre Sainte pour la violence à caractère religieux. Le souverain pontife s'est par ailleurs dit profondément peiné par l'attentat de samedi contre le musée juif de Bruxelles, déplorant un acte criminel de haine antisémite. Jean-Baptiste Cocagne.
Que la solution des deux États devienne réalité et ne demeure pas un rêve. Que la ville tourmentée de Jérusalem devienne, conformément à sa vocation, une ville de valeur universelle, car c'est ainsi que Dieu la veut et c'est ainsi que tous les hommes de bonne volonté désirent qu'elle soit. Il faut donc appliquer les résolutions de l'ONU. Encore une fois, le pape François est allé droit au but, mais il n'a pas manqué non plus d'évoquer les victimes de la Shoah et de condamner l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination et d'intolérance. Chaque personne, a-t-il dit, mérite un respect absolu, quel que soit le peuple auquel elle appartient et la religion qu'elle professe. Reçu avec tous les honneurs à son arrivée, dans la matinée en territoire palestinien, le pape François avait été tout aussi clair en affirmant qu'il est temps de mettre fin à une situation toujours plus inacceptable pour le bien de tous. Devant le président Mahmoud Abbas et un parterre de dignitaires palestiniens, il avait rappelé la position du Saint-Siège en faveur de la reconnaissance de la part de tous du droit de deux États à exister et jouir de la paix et de la sécurité dans des frontières internationalement reconnues. Il avait souhaité vivement qu'on évite de la part de tous des initiatives et des actes qui contredisent la volonté déclarée d'arriver à un vrai accord. Il faut marcher résolument vers la paix, même en renonçant chacun à quelque chose. Quant aux chrétiens, ils sont des citoyens de plein droit.
Dans un geste sans précédent, le pape François a invité ce dimanche le président israélien Shimon Peres et le président palestinien Mahmoud Abbas à venir au Vatican pour prier avec lui pour la paix. Le Saint-Père s'exprimait à la fin de la messe célébrée dimanche matin à Bethléem.
En ce lieu où est né le prince de la paix, je désire adresser une invitation à vous, monsieur le président Mahmoud Abbas, et à monsieur le président Shimon Peres, pour faire monter ensemble avec moi une prière intense en invoquant de Dieu le don de la paix. J'offre ma maison au Vatican pour accueillir cette rencontre de prière. Tous, nous désirons la paix. Beaucoup de personnes la construisent chaque jour par de petits gestes. Nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment les efforts de beaucoup de tentatives pour la construire. Et tous, spécialement ceux qui sont placés au service de leur peuple, nous avons le devoir de nous faire instruments et artisans de paix, avant tout dans la prière. Construire la paix est difficile, mais vivre sans paix est un tourment. Tous les hommes et toutes les femmes de cette terre et du monde entier nous demandent de porter devant Dieu leur aspiration ardente à la paix.
Selon le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, la rencontre entre Mahmoud Abbas et Shimon Peres au Vatican pourrait avoir lieu rapidement, peut-être dès le mois prochain, avant la fin du mandat du président israélien au mois de juillet. Ce dernier a déjà fait savoir qu'il acceptait l'invitation du pape François, tandis que Mahmoud Abbas annonçait plus explicitement qu'il se rendrait au Vatican le 6 juin. La deuxième Eucharistie de son voyage, le pape François l'a donc célébrée dans le lieu où est né Jésus, à Bethléem, en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, qui est monté à l'autel pour échanger le signe de paix avec le Saint-Père. Dès l'aube, des flots de pèlerins avaient commencé à déferler sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, franchissant les multiples contrôles et détecteurs de métaux mis en place par les forces de sécurité palestiniennes. Arrivé d'Amman, en hélicoptère, le pape François a été accueilli par des vivas, sous la protection de quelques 3000 membres des forces de sécurité. Son homélie, il l'a placée sous le signe de l'enfance. Le reportage de notre envoyé sur place, Bernard de Cotigny.
C'est au cœur de Bethléem, place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, que le pape a célébré une messe pour les chrétiens de Terre Sainte, ceux qui avaient du moins réussi à venir jusqu'ici dans cette enclave, à avoir les autorisations. Quelques 10 000 fidèles, dont une poignée est venue par miracle de la bande de Gaza, d'autres de Galilée, où le pape n'ira pas, et il s'en est excusé. De Jérusalem aussi, où pour les chrétiens il devrait être ensuite difficile de retrouver ou seulement voir le successeur de Pierre, tant les mesures de sécurité sont draconiennes, et pas mal de quartiers sont d'ores et déjà bouclés. Le pape des pauvres et des exclus, comme titrait ce dimanche matin la presse palestinienne, a célébré la messe de la Nativité sur fond d'une grande peinture représentant la crèche, avec notamment pour personnages les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI en adoration. Une liturgie festive en latin et en arabe, durant laquelle le pape François nous a livré une très belle homélie centrée sur l'enfant. L'enfant, signe d'espérance, signe de vie, mais aussi baromètre pour comprendre l'état de santé d'une famille, comment se porte la société, comment va le monde. Quand les enfants sont accueillis, aimés, défendus, protégés dans leurs droits, déclarait le pape, la famille est saine, la société est meilleure, le monde est plus humain. Et le pape rappelait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les enfants ont besoin d'être accueillis et défendus. Malheureusement, dans notre monde qui a développé les technologies les plus sophistiquées, il y a encore de nombreux enfants dans des conditions inhumaines, qui vivent en marge de la société, dans les périphéries des grandes villes ou dans les zones rurales. De nombreux enfants aujourd'hui encore sont exploités, maltraités, tenus en esclavage, objets de violences et de trafics illicites. De nombreux enfants sont aujourd'hui déracinés, réfugiés, parfois noyés dans les mers, spécialement en Méditerranée. De tout cela, nous avons honte aujourd'hui devant Dieu, ce Dieu qui s'est fait enfant. Le pape François recommandait alors de savoir écouter ses enfants, de prier pour eux et avec eux. Car dans notre monde du gaspillage quotidien de tonnes de nourriture et de médicaments, des enfants aujourd'hui encore pleurent de faim et souffrent de maladies. Et le pape condamnait une fois encore le trafic d'armes qui finissent dans les mains d'enfants soldats, la main d'œuvre des petits travailleurs esclaves pour les multinationales. Chaque enfant et ses conditions de vie doivent provoquer, a-t-il dit, une interrogation sur l'état de santé de ce monde et nous inciter à l'améliorer.
Desideriamo che questa sua visita
Le patriarche Toil, lui aussi, devait parler des enfants de Terre Sainte, pour lesquels, dénonçait-il, il n'y a plus de place dans les législations, qui sont absents des négociations pour une paix qui ne trouve pas le chemin pour arriver jusqu'ici, une paix qui ne réussit pas à détruire les murs de la peur et de la méfiance qui entourent cette ville de Bethléem. Des murs que le pape a pu voir se dresser devant lui et toucher du doigt, décider à marquer décidément les esprits et espérons-le les cœurs, le pape François, en effet, se rendant au cœur de cette ville de Bethléem, a fait arrêter le convoi au pied du mur de séparation, ce mur de sécurité construit par les Israéliens pour isoler les territoires palestiniens, au pied d'une impressionnante tour de guet couverte de barbelés, de graffitis réclamant la liberté, le pape a tout simplement prié.
À la fin de la messe, au moment de la prière du Regina Celi, le pape François a confié la Terre Sainte à Marie, afin que ses habitants puissent y vivre dans la justice, dans la paix et dans la fraternité. Il a tourné également ses pensées vers Nazareth, en affirmant qu'il espérait pouvoir s'y rendre. Les chrétiens de Galilée ont exprimé une grande frustration que le Saint-Père ne trouve pas le temps, dans son voyage de 3 jours, de les visiter, alors que Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI l'avaient fait. Le pape François a par ailleurs encouragé la réalisation à Nazareth d'un centre international pour la famille qui sera chargé d'accueillir les familles de pèlerins en Terre Sainte sur une colline surplombant la ville arabe la plus peuplée d'Israël. Le projet avait été présenté à la 7e rencontre mondiale des familles en 2012 à Milan sous les auspices du Conseil pontifical de la famille. Ce lundi, 3e et dernier jour de son pèlerinage en Terre Sainte, le pape François, au pas de charge, alternera moments d'émotion et de protocole. Il foulera du pied des lieux chargés d'histoire, se rendant sur l'esplanade des mosquées, visitant le Grand Conseil des musulmans, allant au mur occidental, communément appelé mur des lamentations, pour déposer un message, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Inédit pour un pape, il se rendra aussi au cimetière du Mont Herzl pour y déposer une gerbe de fleurs. Et nous le retrouvons ensuite au mémorial de l'Holocauste, de l'Yad Vashem, pour un autre moment d'intense recueillement. Le père Frédéric Mans est franciscain. Il a dirigé la faculté des sciences bibliques de Jérusalem jusqu'en 2001. Spécialiste du rapport entre judaïsme et christianisme au 1er siècle, il nous parle du dialogue judéo-chrétien, mais aussi de la perception du pape par les Israéliens.
La société israélienne est une société pluraliste. Il y a des juifs orthodoxes, des juifs libéraux, des sionistes. Il y a les colons qui se basent sur le livre de Josué. Il y a l'institut du Troisième Temple. Il y a les juifs messianiques, il y a des laïcs. Donc certains sont très ouverts au dialogue. Je pense au Rabbi Rosen, Goshen Gottstein et d'autres. D'autres pensent que le dialogue est une illusion et qui ne fait rien d'autre que de répandre le relativisme.
Quel est l'essence du dialogue entre christianisme et judaïsme aujourd'hui, étant donné que certains le perçoivent comme une sorte de compromis dans une perspective politico-religieuse?
La perspective du pape François n'est pas une perspective politique. Je voudrais rappeler que les racines chrétiennes se trouvent dans le judaïsme. Jésus, en fait, Jésus de Nazareth, nous unit à nos frères juifs et en même temps nous divise de nos frères juifs. La boussole du dialogue restera toujours le document, la déclaration Nostra Aetate. Les rapports entre christianisme et hébraïsme sont un peu les rapports d'un arbre avec ses racines. Si les racines sont en bon état, l'arbre peut donner un fruit. Si les racines sont en mauvais état, l'arbre ne peut pas donner de fruit. Il y a bien sûr le dialogue au niveau de la vie quotidienne, mais il y a surtout le dialogue au niveau théologique qui est important maintenant. Il faut absolument continuer.
Le père Frédéric Mans, ancien directeur de la faculté des sciences bibliques de Jérusalem, interrogé par Gabriele Palaciano. Dimanche, la police israélienne a indiqué que 26 activistes d'extrême droite qui manifestaient contre la visite du pape François avaient été arrêtés sur le mont Sion à Jérusalem. Réunis autour du Cénacle, le tombeau du roi David pour les juifs, les manifestants avaient jeté des pierres et des bouteilles vers les forces de l'ordre. Et puis sachez que l'Institut français de Rome rendra hommage à Vladimir Ghica ce lundi, un an après sa béatification. Le 31 août 2013 à Bucarest. Environ 8000 fidèles avaient assisté à la célébration, dont de nombreux pèlerins venus de France, où ce prince roumain, né à Istanbul dans une famille orthodoxe, a étudié et exercé comme prêtre pendant plus de 15 ans au diocèse de Paris. Diplomate, apôtre de la charité auprès des déshérités, précurseur de l'écuménisme de la banlieue parisienne à l'Europe de l'Est, Vladimir Ghica est mort en martyr en 1954 des suites des mauvais traitements dans l'une des plus sinistres prisons politiques communistes communiste roumaine. Il avait été arrêté pour avoir maintenu le lien avec le Vatican et avec son frère, ancien ministre des Affaires étrangères, exilé en Suisse. Ce lundi à Rome, plusieurs personnalités évoqueront cette figure singulière du catholicisme européen du XXe siècle. La conférence donnée par l'Institut français s'intitule « Vladimir Ghica, un itinéraire spirituel entre France et Roumanie ». C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, bonne semaine à tous.